Chapitre 9. Continuation. Monsieur Allworthy profita du temps qu'il était dans sa chaise à porteurs pour lire la lettre de Jones à Sophie que Weston lui avait remise. Il y trouva des expressions si tendres relatives à lui qu'elles lui firent répandre des larmes. Enfin, il arriva chez Monsieur Weston et fut introduit chez Sophie. Quand les premières cérémonies furent terminées et que tous deux se furent assis, ils gardèrent le silence pendant quelques minutes. Sophie, qui avait été préparée à cette visite par son père, jouait avec son éventail, témoignant autant de trouble dans tout son maintien que sur son visage. Enfin, M. Allworthy, qui était lui-même un peu embarrassé, commença ainsi. « Je crains, Miss Weston, que ma famille n'ait été la cause de toutes les peines que vous avez souffertes. Je ne crains pas moins d'en avoir été l'instrument innocent, et ce n'était pas mon projet. Soyez assurée, madame, que si j'avais su d'abord combien les propositions faites vous avaient été désagréables, je n'aurais pas souffert qu'on vous eût persécuté si longtemps. Vous ne croirez donc pas, j'espère, que le but de cette visite soit de vous tourmenter par de nouvelles sollicitations de cette espèce. Croyez, au contraire, qu'elle n'a pour objet que de vous en mettre désormais entièrement à l'abri. » Monsieur, dit Sophie, avec une légère et modeste hésitation, cette conduite est aussi noble que généreuse, et telle que je ne pouvais l'attendre que de M. Allworthy. Mais puisque vous avez eu la bonté d'entamer ce sujet, vous me pardonnerez de vous dire qu'il m'a en effet causé bien des peines, et a été pour moi une occasion d'éprouver le plus cruel traitement de la part d'un père qui, jusqu'à cette malheureuse affaire, avait toujours été pour moi le plus tendre et le plus affectionné des pères. Je suis convaincu, monsieur, que vous êtes trop bon et trop généreux pour vous offenser du refus que j'ai fait de votre neveu. Nos inclinations ne sont pas en notre pouvoir, et quel que puisse être son mérite, mon cœur ne me dit rien pour lui. Oh, la plus aimable des femmes, dit M. Allworthy, je vous assure que je ne suis point capable d'un pareil ressentiment, quand il s'agirait de mon propre fils, et quand j'aurais conservé la plus haute estime pour lui. Car ce que vous dites est bien vrai, madame. Nous ne pouvons forcer nos inclinations. Beaucoup moins encore peuvent-elles l'être par d'autres. Oh, monsieur, dit Sophie, chaque mot que vous dites prouve que vous méritez bien ce bon, ce grand, ce noble caractère que tout le monde vous attribue. Je vous assure, monsieur, qu'il n'a fallu rien moins que la certitude de mon malheur futur pour me faire résister aux volontés de mon père. « Je vous crois sincèrement, madame, » répliqua M. Allworthy, « et je vous félicite de tout mon cœur de votre prévoyance, puisque par une résistance si excusable, vous avez en effet évité votre malheur. » Vous parlez, M. Allworthy, avec une délicatesse que peu d'hommes sont capables de sentir. Il est certain que ce doit être un état affreux que de passer sa vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Peut-être ce malheur serait-il même augmenté par le sentiment du mérite de celui auquel nous ne pouvons donner notre cœur. Si j'avais épousé M. Blifil... Pardonnez si je vous interromps, madame, répondit Allworthy, mais je ne puis soutenir l'idée de cette supposition. Croyez-moi, Miss Weston, je me réjouis de tout mon cœur, je me réjouis de votre fuite. J'ai découvert que le malheureux pour lequel vous avez souffert cette cruelle persécution de la part de votre père était un scélérat. Comment, monsieur, s'écria Sophie, vous devez croire que cela me surprend beaucoup. Cela ne m'a pas moins surpris, madame, et cela ne surprendra pas moins le monde. Mais je vous ai dit la pure vérité. Je suis convaincu que la vérité seule peut sortir de la bouche de M. Allworthy. Cependant, monsieur, une nouvelle si soudaine, si inattendue. Vous avez découvert, dites-vous, ah, puissent tous les crimes être toujours ainsi découverts. Vous serez assez tôt instruite de toute cette histoire. Quant à présent, ne prononçons pas un nom si exécrable. J'ai une autre proposition à vous faire. Oh, Miss Weston, je connais toute la supériorité de votre mérite. Je ne peux pas si aisément renoncer à l'ambition d'être alliée avec vous. J'ai un proche parent, madame, un jeune homme dont le caractère, j'en suis convaincu, est tout l'opposé de celui de ce scélérat, et dont je rendrai la fortune égale à ce que la sienne devait être. Pourrais-je espérer, madame, que vous daignassiez l'admettre à l'honneur de vous rendre une visite ? Sophie, après une minute de silence, répondit : Je dois parler à M. Allworthy avec la plus grande sincérité. Son caractère et le nouveau bienfait que je viens d'en recevoir l'exigent également. Je suis résolue en ce moment de n'écouter de personne aucune proposition de ce genre. Mon seul désir est de regagner l'affection de mon père et de me retrouver à la tête de sa maison. Voilà, monsieur, ce que j'espère devoir à vos bons offices. Je vous supplie, je vous conjure, par cette extrême bonté que moi, que tous ceux qui vous connaissent ont éprouvée, au moment même où vous me délivrez d'une persécution, de grâce ne m'en suscitez pas une autre qui me rendrait aussi malheureuse et serait aussi inutile. Assurément, Miss Weston, je ne suis point capable d'une semblable conduite. Et si telle est votre résolution, il doit se résigner à son sort, quelque douleur qu'il puisse en éprouver. Vous me faites sourire malgré moi, Monsieur Allworthy, quand vous me parlez de la douleur d'un homme que je ne connais pas et qui, conséquemment, doit fort peu me connaître. Pardonnez-moi, chère Sophie, je commence à craindre qu'il ne vous ait trop connu pour son repos futur, puisque si jamais homme fut capable d'une passion sincère, noble et violente, je suis convaincu que telle est celle que ressent mon malheureux neveu pour Miss Weston. Votre neveu, Monsieur Allworthy, cela est vraiment extraordinaire. Je n'en avais jamais entendu parler. La vérité, madame, est que la seule chose que vous ignoriez, c'est qu'il fut mon neveu. Et moi-même, je l'ignorais jusqu'à ce jour. Mais M. Jones, qui vous aime depuis si longtemps, eh bien, il est mon neveu. M. Jones, votre neveu, monsieur ? Cela est-il possible ? Il l'est, madame. Il est fils de ma sœur. Je le reconnaîtrai toujours pour tel, et je n'en rougis point. Je rougis davantage de ma conduite passée envers lui. Mais j'ignorais autant son mérite que sa naissance. J'en conviens, Miss Weston, je l'ai cruellement traité. Oh oui, je l'ai cruellement traité. Ici, l'excellent homme essuya ses yeux, et après une courte pause, continua en ces termes. Je ne pourrai jamais le dédommager de ses souffrances, si vous ne venez à mon secours. Croyez-moi, ô la plus aimable des femmes, il faut que je fasse grand cas de lui, puisque j'ose l'offrir à une personne de votre mérite. Je sais qu'il s'est rendu coupable de quelque faute, mais le fond du cœur est extrêmement bon. Croyez-moi, madame, il est bon. » Ici, il s'arrêta, en paraissant attendre la réponse que Miss Weston lui fit, dès qu'elle se fut un peu remise du trouble et de l'agitation dans lesquelles l'avait jetée une nouvelle aussi extraordinaire et aussi soudaine. « Je vous fais mon compliment sincère, monsieur, d'une découverte qui paraît vous causer tant de joie. » Je ne doute pas que vous n'y trouviez toute la consolation que vous pouvez vous en promettre. Ce jeune homme a 1000 bonnes qualités, et il est impossible qu'il ne se conduise pas, comme il le doit, envers un oncle tel que vous. J'espère, madame, qu'il a aussi toutes les bonnes qualités qui doivent en faire un bon mari. Il faudrait assurément qu'il fût le plus abandonné des hommes, si une personne de votre mérite daignait condescendre. Vous voudrez bien me pardonner, monsieur Allworthy, mais je ne puis écouter une proposition de cette nature. Je suis convaincu que M. Jones a beaucoup de mérite, mais je ne recevrai jamais M. Jones comme un homme qui doit être mon mari. Pardonnez-moi, madame, si je suis un peu surpris après ce que M. Weston m'a dit. J'espère que ce jeune homme n'a rien fait pour perdre la bonne opinion que vous aviez conçue de lui, s'il est vrai qu'il ait jamais été assez heureux pour cela. Peut-être a-t-il été calomnié auprès de vous, comme il l'avait été auprès de moi. La même perfidie peut l'avoir poursuivi partout. Ce n'est point un assassin, je vous assure, quoi qu'on lui en ait donné le nom. Monsieur Allworthy, je vous ai déclaré ma résolution. Je ne suis point surprise de ce que mon père a pu vous dire. Mais quelles qu'aient pu être ses craintes, si je connais bien mon cœur, ce n'est pas moi qui ai pu les causer, puisque j'ai toujours eu pour principe fixe de ne jamais me marier sans son consentement. Tel est, je crois, le devoir d'un enfant envers son père, et j'espère que rien au monde n'aurait pu m'en faire écarter. Mais je ne conçois pas que l'autorité de nos parents, puisse jamais nous obliger de nous marier en opposition directe avec nos inclinations. Pour éviter cette violence, que j'avais trop de raisons de craindre, j'ai quitté la maison de mon père et cherché de la protection ailleurs. Voilà la vérité, et si le monde ou mon père me prête d'autres intentions, ma conscience suffit pour m'en justifier. Je vous écoute avec admiration, Miss Weston. J'admire la justesse de vos sentiments. Mais sûrement il y a ici quelque chose de plus. Je ne voudrais pas vous offenser. Mais dois-je regarder seulement comme un songe tout ce que l'on m'a dit, tout ce que j'ai vu jusqu'ici? Avez-vous supporté un traitement si cruel de la part de votre père pour un homme qui vous a toujours été absolument indifférent? Je vous prie, monsieur Allworthy, de ne pas exiger que je vous dise mes raisons. Oui, j'ai beaucoup souffert. Je ne veux point vous le cacher, monsieur Allworthy. Je vous parle très sincèrement. J'avoue que j'avais une haute opinion de monsieur Jones. Je sais que j'ai souffert pour soutenir mon opinion. J'ai été traité cruellement par ma tante ainsi que par mon père. Mais cela est passé à présent. Je désire n'être pas pressé davantage, car quelle qu'ait pu être mon opinion, ma résolution est maintenant fixée. Votre neveu, monsieur, a beaucoup de vertus. Il a de grandes vertus, monsieur Allworthy. Je ne doute pas qu'il ne vous fasse honneur dans le monde et ne vous rende heureux. Je voudrais aussi faire son bonheur, madame. Mais je suis convaincu qu'il ne dépend que de vous. C'est cette conviction qui m'a rendu un solliciteur aussi ardent en sa faveur. Vous êtes trompé, monsieur. Vous êtes trompé. J'espère que ce n'est pas par lui. Il suffit qu'il m'ait trompé, moi. Monsieur Allworthy, je désire ne pas être pressé davantage sur ce sujet. Je serai fâché. Je ne veux pas lui faire perdre votre faveur. Je souhaite toutes sortes de prospérité à monsieur Jones. Je le lui souhaite de tout mon cœur. Et, je vous le répète, quelque tort qu'il puisse avoir avec moi, je suis sûr qu'il a beaucoup de bonnes qualités. Je ne désavoue point mes premiers sentiments, mais rien ne pourra jamais les rappeler. Quant à présent, il n'y a pas d'homme sur la terre que je sois plus résolu à refuser que monsieur Jones. Les sollicitations de monsieur Blifil lui-même ne me déplairaient pas davantage. Il y avait longtemps que Weston attendait avec impatience l'issue de cette conférence. Il venait justement d'arriver à la porte de la chambre dans le dessein d'écouter, lorsqu'ayant entendu la dernière phrase de sa fille, il perdit toute patience et, ouvrant brusquement la porte dans un accès de fureur, il s'écria « C'est un mensonge! C'est un damné mensonge! Tout cela est dû à ce damné coquin de Jones. Et si elle pouvait l'avoir, elle l'aurait auprès d'elle toute la journée. » Ici, Allworthy interposa son autorité et, s'adressant à Weston avec un regard sévère, il lui dit « Monsieur Weston, vous ne m'avez pas tenu parole. Vous m'aviez promis de vous abstenir de toute violence. Aussi l'ai-je fait aussi longtemps que je l'ai pu. Mais entendre une péronnelle dire des mensonges aussi impudents, ventre bleu! Croit-elle que si elle peut faire des dupes de tous les autres, elle en fera aussi une de moi? Non, non. Je la connais mieux que tu ne la connais. Je suis fâché de vous dire, monsieur, qu'il ne paraît pas, d'après votre conduite envers cette jeune personne, que vous la connaissiez du tout. Je vous demande pardon, mais je crois que notre intimité, le désir que vous m'avez témoigné et l'occasion me justifient. Elle est votre fille, monsieur Weston, et je crois qu'elle fait honneur à votre famille. Si j'étais capable d'envie, il n'y a pas d'homme que j'enviasse plus sous ce rapport. Parbleu, je voudrais de tout mon cœur qu'elle fût ta fille. Tu désirerais bientôt d'en être débarrassé. En vérité, mon bon ami, vous êtes vous-même la cause de toutes les peines dont vous vous plaignez. Mettez dans cette jeune personne toute la confiance qu'elle mérite si bien, et je vous assure que vous serez le plus heureux des pères. Moi, de la confiance en elle? Quelle confiance puis-je placer en elle quand elle ne veut pas faire ce que je veux? Qu'elle consente seulement à se marier à mon gré, et je placerai en elle toute la confiance que vous voudrez. Vous n'avez pas le droit, voisin, d'insister sur un pareil consentement. Votre fille vous accorde une voix négative en cette matière, et Dieu et la nature n'ont pas jugé à propos de vous en accorder davantage. Une voix négative. Ah, je lui montrerai quelle est la voix négative que j'ai. Allez-vous-en, allez dans votre chambre, allez, obstiné. En vérité, monsieur Weston, en vérité, vous la traitez cruellement. Je ne puis souffrir cela. Il faut que vous vous conduisiez avec elle d'une manière plus douce. Elle mérite d'être traitée le mieux possible. Oui, oui, je sais ce qu'elle mérite. Maintenant qu'elle est sortie, je m'en vais vous montrer ce qu'elle mérite. Voyez, monsieur, voici une lettre de ma cousine Lady Bellaston, dans laquelle elle a la bonté de me donner à entendre que le drôle est sorti de prison. Et elle me conseille de veiller le plus soigneusement que je pourrai sur la coquine. Ventre bleu, voisin Allworthy, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir une fille à gouverner. Weston finit par se féliciter de sa sagacité. Ensuite, Allworthy, après un léger préambule, l'instruisit de la découverte qu'il avait faite concernant Jones, de sa colère contre Blifil et de toutes les particularités que nous avons communiquées au lecteur dans le chapitre précédent. Les gens du caractère le plus emporté sont aussi pour la plupart ceux qui changent le plus facilement. Weston ne fut donc pas plutôt instruit de l'intention de M. Allworthy de faire Jones son héritier qu'il se réunit de tout son cœur à l'oncle pour faire l'éloge du neveu, et montra autant d'empressement à unir Sophie à Jones qu'il en avait montré précédemment à la mariée avec Blifil. Ici, M. Allworthy fut encore obligé de l'interrompre et de lui raconter ce qui s'était passé entre Sophie et lui, ce dont il témoigna beaucoup de surprise. Weston garda un moment de silence, tant ce récit l'avait frappé d'étonnement. Que veut dire ceci, voisin Allworthy? Elle était folle de lui, j'en jurerai. Palsambleu, j'ai bien visé. Aussi sûr qu'avec un fusil, j'ai attrapé le point juste. Tout cela vient de ma sœur. La petite fille a pris feu pour ce fils de pute de lord. Je les ai trouvés ensemble chez ma cousine Lady Bellaston. Il lui a tourné la tête, cela est certain. Mais Dieu me damne s'il l'épouse. Je ne veux ni lord ni courtisan dans ma famille. M. Allworthy fit un long discours, dans lequel il répéta la résolution où il était d'éviter toute mesure violente, et recommanda très sérieusement à M. Weston tous les moyens doux comme les seuls qui pussent lui faire espérer de réussir avec sa fille. Il se retira alors et retourna chez Mrs. Miller. Mais il fut forcé de céder aux vives instances de M. Weston et de lui promettre de lui amener Jones dans l'après-midi, afin, dit-il, de se raccommoder avec le jeune gentilhomme. Comme M. Allworthy sortait, Weston lui promit de suivre ses avis relativement à sa conduite avec Sophie. « Je ne sais comment cela se fait, lui dit-il, mais Dieu me damne, Allworthy, si vous ne me faites pas toujours faire tout ce que vous voulez. Et cependant, j'ai une terre qui vaut bien la vôtre, et je suis juge de paix tout aussi bien que vous. » Chapitre 10 Où l'histoire commence à tirer vers sa fin. Quand Allworthy revint à son logement, il apprit que Jones venait d'arriver un moment avant lui. Il s'empressa de se rendre en conséquence dans une chambre séparée, où il ordonna qu'on lui amenât Jones seul. Il est impossible de concevoir une scène plus tendre et plus touchante que cette entrevue entre l'oncle et le neveu. Car Mrs. Waters, comme le lecteur peut le supposer, lui avait découvert à sa dernière visite le secret de sa naissance. Et comme je conviens qu'il est au-dessus de mon pouvoir de décrire les premiers transports de joie qui furent éprouvés de part et d'autre, je ne le tenterai pas. Après qu'Allworthy eut relevé Jones, qui s'était jeté à ses pieds, et l'eut serré dans ses bras, « Oh, mon enfant, s'écria-t-il, combien de reproches vous avez à me faire! Combien je vous ai maltraité! Quel dédommagement puis-je jamais vous offrir pour ces soupçons cruels contre vous et pour toutes les souffrances qu'ils vous ont occasionnées? Ne les ai-je pas déjà reçus, ces dédommagements? Ne suis-je pas en ce moment trop payé de mes souffrances, eussent-elles été 10 fois plus cruelles? Oh, mon cher oncle, cette bonté, cette tendresse m'accable, m'anéantit. Je ne puis supporter cet excès de bonheur. Me retrouver en votre présence, jouir encore de vos bontés, être ainsi tendrement reçu par mon noble, mon généreux bienfaiteur. En vérité, mon enfant, Je vous ai traité bien cruellement. » Il lui expliqua alors toute la perfidie de Blifil et lui renouvela les assurances de la douleur qu'il ressentait d'avoir été entraîné par cette perfidie à le traiter si mal. « Oh, ne parlez pas ainsi, monsieur. Vous avez agi trop noblement avec moi. L'homme le plus sage peut être trompé comme vous l'avez été, et être dupe d'une pareille trahison. Le meilleur des hommes se serait conduit comme vous l'avez fait. Votre bonté s'est déployée en même temps que votre colère, et je dois tout à cette bonté dont je me suis rendu si indigne. Ne me forcez pas de m'accuser moi-même en portant trop loin vos généreux sentiments pour moi. Hélas, monsieur, je n'ai pas été plus puni que je ne l'ai mérité, et ce sera l'occupation entière de ma vie future de mériter ce bonheur que vous me réservez. Car, croyez-moi, mon cher oncle, ma punition n'a pas été perdue pour moi. J'ai été un grand pécheur, mais je ne suis point un pécheur endurci. Je remercie le ciel d'avoir eu le temps de réfléchir sur ma vie passée, dans le cours de laquelle, quoique je n'aie à me reprocher aucune faute grave, je me souviens d'un assez grand nombre de fautes et de folies pour m'inspirer la honte et le repentir, folies qui ont toujours été suivies pour moi des plus terribles conséquences et m'ont entraîné sur les bords de l'abîme. Je me réjouis, mon cher enfant, de vous entendre parler ainsi, car, bien convaincu que l'hypocrisie n'est pas au nombre de vos défauts, grand Dieu, comme elle m'en a imposé dans les autres, je crois volontiers tout ce que vous dites. Vous voyez maintenant, Tom, dans quel danger l'imprudence seule entraîne la vertu. Je suis maintenant persuadé que vous l'aimez passionnément. La prudence est un devoir que nous avons à remplir envers nous-mêmes. Et si nous voulons être assez nos propres ennemis pour la négliger, nous ne devons pas nous étonner si le monde manque à remplir ses devoirs envers nous. Car lorsqu'un homme pose les fondements de sa propre ruine, il y a lieu de craindre que les autres n'aient trop de penchant à élever sur elle l'édifice de leur fortune. Vous dites cependant que vous reconnaissez vos fautes et que vous vous en corrigerez. Je vous crois fermement, mon cher enfant. Ainsi donc, à dater de ce moment, je ne vous le rappellerai plus. Souvenez-vous-en seulement assez pour trouver par la suite les meilleurs moyens de les éviter. Mais souvenez-vous encore, pour votre consolation, qu'il y a une grande différence entre les fautes que la candeur peut faire tourner en imprudence et celles qui sont la suite de la bassesse d'âme. Les premières sont peut-être de nature à entraîner plutôt la perte d'un homme, mais s'il se réforme, il pourra finir par retrouver sa réputation dans toute son intégrité. Le monde, après un certain temps, se réconciliera avec lui et il pourra réfléchir, non sans quelque mélange de plaisir, au danger auquel il a échappé. Mais, mon enfant, la bassesse d'âme, une fois reconnue, est irréparable. Les taches qu'elle laisse après elle ne peuvent être effacées par le temps, la censure publique que poursuit le misérable, le mépris général le couvre de honte, et si son opprobre le force à chercher la solitude, il s'y retire avec toutes les terreurs qui accompagnent dans les ténèbres un enfant qui a peur des esprits. Sa conscience bourrelée l'y poursuit, le repos, comme un ami perfide, s'enfuit loin de lui. De quelque côté qu'il tourne les yeux, il n'aperçoit que des fantômes horribles. S'il jette ses regards en arrière, il voit le repentir marcher sur ses pas. S'il les jette en avant, c'est le désespoir qui frappe sa vue, jusqu'à ce que, comme un prisonnier enfermé dans un cachot, il déteste sa condition présente, non sans craindre les suites de l'heure fatale qui doit l'en délivrer. Consolez-vous, mon enfant, je vous le répète, vous n'êtes point dans ce dernier cas. Réjouissez-vous et rendez 1000 actions de grâce à celui qui a permis de reconnaître vos erreurs avant que vous fussiez tombé dans l'abîme, où la persévérance dans ces mêmes erreurs vous eût infailliblement entraîné. Vous y avez renoncé, et l'avenir qui est devant vous est tel que le bonheur semble être en votre pouvoir. À ces mots, Jones poussa un profond soupir, et, sur la remarque qu'en fit M. Allworthy, il lui dit « Monsieur, je ne vous cacherai rien. Je crains bien d'avoir commis une faute dont les conséquences soient irréparables. Oh, mon cher oncle, j'ai perdu un trésor. Vous n'avez pas besoin d'en dire davantage. Je serai franc avec vous. Je sais ce que vous regrettez. J'ai vu la jeune personne, et nous avons causé ensemble sur votre compte. J'exige de vous, comme une preuve de votre sincérité dans tout ce que vous m'avez dit et de la fermeté de votre résolution, que vous m'obéirez dans ce que je vais vous prescrire, c'est-à-dire que vous vous en tiendrez absolument à la détermination de la jeune personne, qu'elle vous soit ou non favorable. Elle a déjà assez souffert de persécutions dont je déteste la pensée. Je ne veux plus qu'elle ait à reprocher de nouvelles contraintes à ma famille. Je ne doute pas que son père ne soit aussi prompt à la tourmenter en votre faveur qu'il l'a été naguère en faveur d'un autre. Mais j'ai résolu de ne pas souffrir qu'on la renferme de nouveau, qu'on exerce envers elle la moindre violence, ni qu'on la rende malheureuse un seul moment. Oh, mon cher oncle, je vous en conjure, donnez-moi des ordres auxquels j'ai du moins quelque mérite à obéir. Croyez-moi, monsieur, la seule circonstance où je pourrais vous désobéir serait celle où vous m'ordonneriez de causer la plus légère peine à ma Sophie. Non, monsieur, si je suis assez misérable pour avoir pu lui déplaire sans aucune espérance de pardon, cela seul, avec la réflexion cruelle d'avoir causé son malheur, suffirait pour m'accabler. Appeler Sophie ma femme est le plus grand et aujourd'hui le seul surcroît de bonheur que le ciel puisse me procurer. Mais c'est un bonheur que je ne veux devoir qu'à elle seule. Je ne veux point vous flatter, mon enfant. Je crains que vous ne puissiez espérer ce bonheur. Je n'ai jamais vu en personne de plus forte marque d'une résolution inébranlable que j'en ai remarqué en elle lorsqu'elle m'a déclaré qu'elle ne recevrait pas vos soins. Vous pouvez peut-être expliquer cela mieux que moi. Oh, monsieur, je peux trop bien l'expliquer. Je me suis rendu coupable envers elle sans aucun espoir de pardon. Et quelque coupable que je sois, ma faute lui paraît encore malheureusement 10 fois plus grave qu'elle ne l'est en effet. Oh, mon cher oncle, je crains que mes folies ne soient irréparables, que toutes vos bontés ne puissent me sauver de ma ruine. Un domestique vint alors annoncer que M. Weston était en bas, car son empressement à voir Jones n'avait pu lui permettre d'attendre jusqu'à l'après-midi. Jones, dont les yeux étaient pleins de larmes, pria son oncle d'entretenir M. Weston quelques minutes jusqu'à ce qu'il se fût un peu remis. L'excellent homme y consentit, et après avoir fait prier M. Weston d'entrer dans un parloir, il descendit pour le recevoir. Mrs. Miller n'eut pas plus tôt appris que Jones était seul, car elle ne l'avait pas encore vu depuis sa sortie de prison, qu'elle s'empressa de se rendre auprès de lui pour le féliciter de tout son cœur de ce qu'il venait de retrouver son oncle et de l'heureuse issue de son affaire. « Je voudrais bien, ajouta-t-elle, pouvoir vous féliciter sur un autre sujet, mon cher enfant, mais je ne vis jamais personne d'un caractère si inflexible. » Jones, avec quelques marques de surprise, lui demanda ce qu'elle voulait dire. « Hélas, répondit-elle, j'ai été chez votre jeune dame et lui ai tout expliqué, avec les détails que m'avait donné mon fils Nightingale. » Elle ne peut plus avoir aucun doute sur la lettre, j'en suis certaine, car je lui ai protesté que mon fils Nightingale lui ferait le serment, si elle l'exigeait, que cette lettre était toute de son invention, et avait été écrite sous sa dictée. Je lui ai dit que l'envoi de cette lettre était un motif de plus pour vous recommander auprès d'elle, puisque le tout avait eu lieu à cause d'elle, et était une preuve évidente que vous étiez déterminé à renoncer à l'avenir à ce genre de désordre. Que vous ne vous étiez pas rendu coupable une seule fois d'infidélité à son égard depuis que vous l'aviez vu à Londres. Je crains même d'avoir été un peu trop loin sur cet objet, mais le ciel me pardonnera, et j'espère que votre conduite future sera ma justification. Enfin, j'ai dit tout ce que j'ai pu, mais sans aucun succès. Elle demeure inflexible. Elle dit qu'elle vous a pardonné bien des fautes à cause de votre jeunesse, mais elle a témoigné tant d'horreur pour le caractère d'un libertin qu'elle m'a absolument imposé silence. J'ai souvent tenté de vous justifier, mais la justesse de ces accusations m'a fermé la bouche. Sur mon honneur, c'est une femme charmante, l'une des plus douces et des plus spirituelles que j'ai jamais vues. Je l'aurais presque embrassée pour une expression dont elle s'est servie. C'est un sentiment digne de Sénèque ou d'un évêque. « J'ai cru, madame, me dit-elle, avoir découvert beaucoup de bonté d'âme dans M. Jones. Et j'avoue que j'en avais conçu pour lui une estime sincère. Mais un abandon absolu au libertinage doit finir par corrompre le meilleur cœur du monde. Et tout ce que peut espérer un libertin qui conserve un bon cœur, c'est que nous mêlions quelque pitié au mépris et à l'horreur qu'il nous inspire. C'est une créature angélique, voilà la vérité. Oh, Mrs. Mella, puis-je supporter la pensée d'avoir perdu un tel trésor? Perdu, non, j'espère qu'elle n'est pas encore perdue pour vous. Prenez la résolution de renoncer au vice, et vous pouvez espérer encore. En tout cas, si elle restait inexorable, il y a une autre jeune dame, bien jolie et extrêmement riche, qui meurt absolument d'amour pour vous. J'en ai entendu parler ce matin même, et je l'ai dit à Miss Weston. J'ai peut-être même encore un peu outrepassé la vérité, car j'ai dit que vous l'aviez refusée. Mais j'étais bien sûr que vous la refuseriez. Et ici, il faut que je vous donne une petite consolation. Quand je lui ai eu prononcé le nom de la jeune dame, qui n'est autre que la jolie veuve Mrs. Hunt, il m'a semblé qu'elle pâlissait un peu. Mais quand je lui ai dit que vous l'aviez refusée, je vous assure que son visage est devenu en un instant couleur d'écarlate. Et voici ses propres mots. Je crois bien, je l'avoue, qu'il a quelque affection pour moi. La conversation fut interrompue ici par l'arrivée de Weston. Colworthy lui-même ne put empêcher d'entrer dans la chambre, quoiqu'il eût un pouvoir presque absolu sur lui, comme nous l'avons vu fort souvent. Weston courut aussitôt à Jones en lui criant « Mon vieil ami Tom, c'est de tout mon cœur que je suis charmé de te voir. Tout le passé doit être oublié. Je ne peux pas être accusé d'avoir voulu te nuire, puisque, comme Allworthy le sait, et comme tu le sais toi-même, je t'ai pris pour un autre. Et quand on ne veut pas nous faire du mal, qu'importe un ou deux mots un peu vifs. Un chrétien doit oublier et pardonner les injures. J'espère, monsieur, dit Jones, que je n'oublierai jamais les nombreuses obligations que je vous ai. Quant aux offenses que vous croyez avoir à vous reprocher envers moi, je vous assure que je les ignore absolument. En ce cas, dit Weston, donne-moi ta main. Tu es le plus honnête garçon qu'il y ait dans le royaume. Viens avec moi, je vais te conduire sur l'heure à ta maîtresse. Allworthy s'y opposa, et Weston, ne pouvant persuader ni l'oncle ni le neveu, fut enfin obligé de consentir à différer jusqu'à l'après-midi pour présenter Jones à Sophie. Allworthy, tant par pitié pour son neveu que par complaisance pour les désirs empressés de Weston, consentit enfin d'aller prendre le thé chez lui. La conversation qui eut lieu après fut assez intéressante, et telle que si elle se fût présentée un peu plus tôt dans le cours de notre histoire, nous l'aurions communiquée à nos lecteurs. Mais comme nous n'avons que le temps de nous occuper de ce qu'il y a de plus essentiel, il nous suffira de dire que tout étant convenu pour la visite de l'après-midi, M. Weston s'en retourna à son logement.